France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, en direct et en public du Festival International des Jeux de Cannes, le jeu. Cette activité sociale, libre, improductive, incertaine et fictive, comme l'écrivait Roger Caillois. Et la France reste une grande adepte de cette activité éminemment sociale. Notre pays reste toujours le premier pays en Europe à nous adonner à cette passion des jeux de société pour tous les âges, tous les goûts et tous les prix, des jeux toujours plus innovants. Question ce matin, le jeu de société est-il devenu une activité culturelle comme les autres, au même titre que la lecture, le théâtre ou le cinéma? Et pourquoi sommes-nous de plus en plus nombreux à aimer jouer? Élément de réponse ce matin avec la commissaire générale du festival, Cynthia Rebérac, et avec le sociologue du jeu, Vincent Berry. Nous verrons également quels sont les jeux qui connaissent le plus de succès en ce moment et quels sont les jeux qui vous plaisent le plus. Bah, dites-le nous sur l'appli Radio France. Bonjour Laurence de Villers et Guillemette Odissino.
Bonjour.
Laurence de Villers, agrégée, docteur en philosophie, vous remplacez Thibaut de Saint-Maurice cette semaine. Quel est le menu de votre punchline philo?
Un jeu vieux comme le monde, mais je suis pas si jeune que ça.
Oui.
Et un philosophe plus vieux que le monde.
Tout de suite, bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Quelle est votre ordonnance de ciné-thérapie cette semaine?
Eh bien, écoutez, je vais enfin vous expliquer à quel point les règles d'une chronique, c'est dur.
A tout de suite, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Bonjour Cynthia Rebérac.
Bonjour Ali.
Vous êtes la commissaire générale du Festival International des Jeux qui se tient à Cannes jusqu'à dimanche. France Inter, partenaire de cet événement populaire. Combien de visiteurs attendus cette année? Vous avez donné le chiffre tout à l'heure, il est assez vertigineux.
Nous attendons un peu plus de 110 000 visiteurs cette année. Nous avons fait en sorte que tout soit au beau fixe pour pouvoir les accueillir. De très belles animations, un village festival qui s'est étendu, de magnifiques stands.
Ah oui, c'est vraiment étendu là. J'ai été frappé là en arrivant de voir qu'il y avait des extensions extérieures et puis une file d'attente depuis très tôt ce matin, assez incroyable.
Oui, beaucoup de personnes puisque à Cannes nous avons la chance d'accueillir effectivement le grand public, mais nous sommes également un salon professionnel. Donc on a plaisir à avoir aussi bien, eh bien ces professionnels que ces festivaliers qui nous rejoignent.
Et on aura des professionnels qui nous proposeront tout au long de cette émission leurs innovations ludiques. Vous nous révélerez tout à l'heure le palmarès des As d'Or. C'est quoi les As d'Or? Expliquez-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas ce...
Comment est-ce possible de ne pas connaître?
C'est le meilleur,
ça, c'est vrai,
les
hein.
meilleurs jeux, les meilleurs
le,
jeux
le
de société
As d'Or, oui.
primés par un jury international.
Par un jury national et international, puisque nous avons un Belge dans le jury. Donc le label As
donc
d'Or...
Donc c'est international.
C'est international. Le label As d'Or est un label qui vient récompenser les meilleurs jeux de société édités sur le marché français. Et donc, nous avons quatre catégories, puisqu'il y a beaucoup de publics, enfants, famille, initié, expert, et donc il y a un grand gagnant dans chacune des catégories et afin de pouvoir aiguiller le public dans ses choix ludiques.
Et c'est vrai que ce label As d'Or, il est très très important pour les éditeurs de jeux.
Il est très important, c'est la Palme d'Or, c'est les Césars, on en parlait juste avant, et ben, effectivement.
Bonjour Vincent Berry.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris Nord et chercheur au sein du laboratoire ISME consacré à la sociologie du jeu des joueurs et de la culture ludique contemporaine. Qu'est-ce que ça raconte, cet engouement absolument incroyable ici à Cannes? 110 000 visiteurs attendus d'ici dimanche.
Ça montre que depuis plus de 40 ans, en fait, le jeu de société, d'abord de façon assez discrète, mais s'est installé assez durablement dans les loisirs des Français. Et le succès du festival, l'importance des prix témoignent assez bien de la façon dont le jeu de société est plus seulement une espèce de divertissement par défaut comme il l'a été pendant longtemps, mais qu'il est devenu un objet culturel à part entière, qui est l'objet de prix, de critiques, de débats, de aussi d'ambitions un peu politiques et artistiques, sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Donc oui, ça conforte assez bien l'idée que le jeu de société est devenu aujourd'hui un objet culturel important dans l'espace des loisirs.
Mais
des Français.
Comment vous expliquez cette fièvre hexagonale par rapport au reste de l'Europe pour le jeu?
Alors il s'est installé à plusieurs moments, c'est-à-dire qu'en fait il progresse très doucement depuis les années 80 et il s'est installé plutôt dans les classes moyennes et supérieures et qui en ont fait en fait un qui se l'ont approprié un peu sur le modèle du livre, du roman. Et c'est-à-dire que oui, c'est un divertissement, mais on a développé une culture de l'auteur, par exemple. Et c'est vrai que les Français ont cette particularité de saisir des loisirs et de les défendre, et de les défendre comme des objets qui ont une valeur culturelle tout à fait légitime. Alors, il l'a pas complètement d'un point de vue institutionnel, mais on voit bien que aujourd'hui, on le défend comme un objet culturel à part entière.
Cynthia Ribérac.
Je suis entièrement d'accord avec Vincent, et on peut aussi voir aujourd'hui qu'il y a une starification dans le milieu du jeu de société, c'est-à-dire que à l'instar du cinéma ou de la littérature, on va acheter un livre parce que l'auteur nous donne envie et puis c'est une valeur sûre. Et bien aujourd'hui, dans le jeu de société, on va acheter le jeu puisque le nom de l'auteur est également un gage de qualité et d'excellence.
Cynthia Ribérac, tout le monde n'aime pas tous les jeux. Par exemple, je n'aime pas trop les jeux de stratégie. En revanche, tout le monde aime potentiellement jouer à certains jeux. Donc c'est l'intérêt de venir à un festival comme Cannes, qui offre une grande variété de jeux. On va forcément trouver un jeu qui nous plaira.
Il y a forcément un jeu qui correspond à chacun des publics. Et il faut surtout bien garder en tête que, finalement, quand nous sommes enfants, on ne se pose pas de questions à savoir si jouer est bien ou mal. On joue. Plus on avance dans l'âge, plus les catégories socio-professionnelles, plus l'image que l'on va renvoyer à la société vont généralement montrer que si j'ai le temps de jouer, c'est que ma place dans la société n'est pas assez élevée. C'est faux. Tout le monde aime jouer, tout le monde joue, que ce soit à des jeux de plateau, à des jeux de cartes, à des jeux sur des applications mobiles, des jeux de l'esprit. En fait, on a tous cette âme d'enfant, de joueur en nous, et à Cannes, aujourd'hui, au Palais des Festivals, on est en capacité, grâce au travail des exposants, évidemment, et de tous les autres au long de l'année, avec des associations, des ludothèques, des bars à jeux, des cafés ludiques, il y a forcément un jeu qui vous correspond. Donc Alice, si vous n'aimez pas jouer aux jeux stratégiques, il y a des jeux de cartes faciles. Ah
ben, ça, j'adore.
Voilà, et ça fonctionne très bien.
Et j'ai en face de moi deux éminentes joueuses. Laurence de Villers, vous êtes agrégée docteur en philosophie, grande spécialiste de Pascal et de Descartes. Vous êtes une grande joueuse parce que vous êtes allée à Las Vegas quand vous étiez jeune pour jouer. Allez-y, avouez cette passion.
Je ne vous dirai plus jamais rien.
Parlez-nous de votre passion pour le jeu.
Oui, alors... oui, parce que je trouve
c'est un coming out.
Je trouve que le jeu rappelle effectivement l'enfance. C'est-à-dire cette idée qu'on n'a pas d'horaire. Je pense que c'est ça, d'abord. Et quand on entre dans un casino, et notamment à Las Vegas, qui est une ville, un casino à l'échelle d'une ville, le monde réel s'abolit. Il n'y a plus que... Alors moi, c'est le blackjack. Il n'y a plus que la table de blackjack, faire 21. Et je trouve que cette capacité du jeu de nous absorber immédiatement et totalement, il y a guère d'équivalent. Alors si je voulais vraiment... faire la maligne, je dirais, bah si, quand je lis de la philosophie, ça me fait exactement la même chose. Peut-être qu'en fait, j'essaie de retrouver dans l'activité philosophique Las Vegas, c'est-à-dire cette possibilité d'être absorbée totalement.
Guillemette Odissino, très grande joueuse également.
Oui, alors, bon, moi je trouve qu'on peut être très absorbé par un film, hein, pardon, hein, c'est quand même un peu, bon, faut quand même que je défende mon domaine. Oui, alors le jeu, j'adore. Alors moi, j'adore quasiment pratiquement tous les jeux. J'ai fait des jeux de rôle quand j'étais ado, j'aime les jeux de stratégie, moi, j'aime les jeux de hasard, j'aime les jeux d'apéro, j'aime les jeux de connaissances. Et il y a des gens qui aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression évidemment d'être toujours testés et qu'ils vont prendre la honte, mais tant pis, c'est une fois de plus le plaisir du jeu. Et je suis complètement d'accord sur le fait que le jeu devient une activité sociale, familiale, amicale, fondamentale, parce qu'en fait... je pense que même, par exemple, dans les familles, où la notion de se retrouver autour d'une table dans un repas, bon, ça commence un peu à finalement aussi à lasser. Maintenant, moi, ma famille ou mes amis m'appellent en disant « Écoute, on fait pas un dîner, hein. On fait des chips, mais en revanche, on fait un jeu de société. » Ah d'accord. Et donc, en fait, le but, c'est d'être autour d'une table, mais autour d'un plateau de jeu, et on s'en fout de ce qu'on mange. Mais il y a un contact... mais fabuleux.
Plateau de jeu et plateau de fromage, ça va bien ensemble, avec un peu de charcuterie. Vincent Robert, Cynthia Ribérac.
Et j'ajouterais à ça aussi, ce qui est impressionnant dans le jeu de société, c'est que quand vous allez regarder un film, vous pouvez adorer, vous allez avoir les mêmes sensations, vous connaissez le début, vous connaissez la fin, vous allez le regarder 40 fois, ce sera la même. Un livre, c'est pareil. Un jeu de société, vous avez même plateau, les mêmes règles. Le jeu offrira une histoire complètement différente à chaque fois que vous allez ouvrir la boîte. Et ça, c'est magique.
Vincent Berry.
Oui, en fait, c'est ce que vous décrivez, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'on voit se développer cette forme de pratique en famille, etc., de pratique occasionnelle. Après, en revanche, quand on regarde à l'échelle de la population, il y a des familles très peu joueuses. Et donc, le jeu, il s'inscrit aussi dans des styles éducatifs, dans des styles de vie aussi. Et donc, il y a des familles où on joue très peu. Et on va valoriser, en revanche, d'autres loisirs pour partager ce moment-là. Donc, le jeu, c'est aussi une pratique culturelle au sens elle est socialement distribuée, quoi. Donc, on la voit progresser, mais dans certains milieux plutôt que dans d'autres. Ouais.
Dites-nous sur l'appli Radio France, pourquoi vous aimez jouer en famille, entre amis, ou pourquoi pas entre collègues. Vincent Berry, en tant que sociologue des pratiques ludiques, comment définissez-vous le jeu ? Alors, il existe cette définition canonique du jeu de Johann Huizinga que j'ai piqué dans votre mémoire « Le sens du jeu, culture et pratique ludique en France ». La définition de Johann Huizinga est la suivante. C'est une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur. Une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité qui s'accomplit à un temps et dans un espace expressément circonscrit, se déroulant avec ordre selon des règles données.
Alors ça, c'est la belle définition canonique qu'on a chez Huizinga, qu'on a aussi chez Caillois, qu'on a chez Claparelle, etc. Après, moi, je me situe, puis d'autres collègues aussi, plutôt dans les traces, d'un philosophe qui s'appelait Jacques Henriot, et puis aussi un peu de Wittgenstein, qui a cassé l'idée qu'on pouvait analyser objectivement le jeu. Et en réalité, c'est impossible de l'analyser, même si la définition est très belle. La gratuité, on n'en est pas sûr. Est-ce que c'est improductif? À ce moment-là, faut enlever les jeux d'argent. Donc, ça pose plein de problèmes. Donc, généralement, moi, je suis assez bien Henriot. C'est-à-dire que c'est une construction historique. Il y a des choses dans l'histoire, à un moment donné, auxquelles on attribue le mot jeu, qui peut disparaître. Ou à l'inverse, des nouvelles formes d'activité dont on ne sait pas que tout d'un coup on va. Donc, le jeu, c'est un mot. Et le jeu, c'est d'abord une représentation qu'on a de ce que c'est que le jeu. Et c'est là où les sociologues s'intéressent plutôt à la culture ludique, c'est-à-dire que je vais qualifier de jeu ce que j'ai appris à reconnaître comme un jeu. On le voit bien, hein. Voire vous mettez certaines personnes autour d'un jeu, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, vous trouvez ça marrant, vous trouvez que c'est un jeu, etc. Et on voit bien que le jeu, il n'existe pas en soi, mais qu'il est une projection de la marque d'une culture ludique individuelle. Et on apprend à jouer, on apprend à reconnaître des objets comme étant des jeux.
Au fond, ça sert à quoi de jouer ? Une chose est certaine, et tous les amateurs de jeux le savent, hein, notamment ici au Festival du jeu à Cannes, le jeu joue un rôle fondamental dans la constitution et l'entretien des sociabilités. Pour le grand sociologue Georges Simmel, l'activité ludique est une forme pure de sociabilité, et c'est peut-être l'aspect le plus passionnant du jeu.
Oui, on n'a jamais réussi à répondre en fait à cette question à quoi sert le jeu. Et parmi les réponses possibles, il y a celle-ci, c'est-à-dire chez Simmel, on l'a aussi chez Durkheim en fait, hein, et même chez des anthropologues qui ont très tôt fait le lien entre le jeu et le sacré, en disant au fond, le rôle du sacré, c'est de, on peut dire trivialement, le rôle d'aller à la messe ou je sais pas où. En fait, c'est de créer du lien social. Et au fond, et même chez Durkheim, il y a cette idée que à mesure que les gens vont de moins en moins à la messe, ils vont aller jouer, etc. Ils vont investir des loisirs pour créer des espaces de sociabilité. Donc oui, c'est une des réponses possibles, mais qui explique pas complètement toutes les pratiques, quoi.
Cynthia Ribérac.
Ah, mais je rejoins complètement ce que dit Vincent. Qu'est-ce que le jeu? C'est assez compliqué, ça dépend de la manière dont on a grandi, ce qui est autour de nous, c'est ce qui va vous procurer du plaisir, et du plaisir en société, c'est bien en tout cas le principe chez nous du jeu de société. Et je rejoins Vincent, et moi de manière beaucoup plus légère, en tout cas la plus belle partie de jeu que l'on voit à Cannes, c'est les sourires sur les visages des gens, ceux qui vont apprécier et pouvoir se dire en fait c'est simple, on m'a expliqué les règles et puis j'ai le droit de jouer et j'ai même réussi et j'ai envie de recommencer. Et du moment où ce message se diffuse, le pari est gagné.
Laurence de Villers.
En fait, on pourrait inverser la question et se demander qu'est-ce qui n'est pas jeu, parce qu'on pourrait se dire que le jeu est un rapport à la réalité qu'on peut instaurer un peu pour tout. Est-ce qu'on peut pas transformer le savoir en jeu? Parce que Guillemette parlait de jeux qui testent des connaissances. Est-ce qu'on transforme pas les vacances en jeu? Est-ce qu'on transforme pas une sortie en mer en jeu? Et peut-être même, là je vais jusqu'au paradoxe, peut-être même que pour qu'on supporte le travail, il faut qu'on le transforme en jeu. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui n'appartient pas à la sphère du jeu?
Allez, il est 10h19, il est l'heure de retrouver la docteur Guillemette Odissido et sa ciné-thérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha.
Ah, Ali, jouer. Mais quel verbe splendide. Et qui marche autant sur un plateau de jeu que sur un plateau de cinéma. Bon, quand même, faut que je le place. Bon, ben ouais. Comment voulez-vous que je n'aime pas Cannes, qui héberge à la fois le plus grand festival du jeu du monde, en hiver, et le plus grand festival de cinéma de la planète, au printemps? On peut dire que ce palais est à la croisette des chemins entre, entre deux merveilleux univers. Alors, puisque c'est ça, je voudrais en profiter pour vous dire à quel point les règles d'une chronique de cinéma sont compliquées. Ouais, j'ai envie de geindre un peu. Chaque vendredi, j'ai l'impression de jouer au risque et au poker en même temps. Hein. En prescrivant deux films, je mise, je mets en place de subtiles stratégies, car il faut que les films vous plaisent, Ali, vous qui tenez la banque. Et en plus, c'est mieux s'ils collent au sujet de l'émission. Mais un peu, mais pas trop non plus. Bon, alors donc aujourd'hui, le thème c'est le jeu, hein, on l'a compris. Mais comme ma chronique est un peu comme un jeu Legacy, ouais, je connais les glossaires, moi, qui évolue au fur et à mesure de mes parties et des choix que je fais, je peux pas me répéter en parlant pour la 20e fois de Jumanji ou de Ready Player One de Spielberg, parce que je l'ai déjà célébré ici même, il y a 3 ans. Bon. Alors, je me suis défaussée et j'ai fait un mulligan. Ouais, non, mais je suis tellement fière de mes...
C'est
de
quoi
mes... Eh ben, je vous explique, j'ai changé de main. Comme sujet, ben, j'ai pris Cannes. Avec 2 films, l'un sur des jeux d'argent, l'autre sur les jeux de la séduction. Alors le premier commence à Sarcelles, certes, avec un truand sexagénaire, Charles, qui sort de tôle, mais rêve tout de même d'un dernier gros coup. Et là, le boulevard de la Croisette arrive vite à l'image, puisque c'est là qu'il va ensuite résider pendant qu'il prépare le casse du casino du Palm Beach. Et c'est pour cela qu'il embauche un mec de 27 ans, auquel... Il explique le coup. Écoutez.
Et maintenant, fais bien attention. Parce que tout ce qui va se passer se déroulera de la même façon dans 8 jours. Vers 1h du mat, comme tous les vendredis, Monsieur Grimm débarque de sa Cadillac accompagné de ses 2 comptables.
Allô, coupez l'alarme, ascenseur et blocos. 30 minutes, sauf nouvel avis.
Et voilà. L'ascenseur est gardé en haut par des gorilles. Et quand il n'est pas gardé... Il y a une sonnerie d'alarme qui amène tous les poulets du quartier sur le chantier. Moralité. Mais on peut pas rentrer dans le blocos.
Autrement dit, c'est pas faisable.
Si c'était pas faisable, on serait pas là.
Bon, alors, vous avez reconnu la voix du joueur numéro 1, Jean Gabin. Et il parle à qui ? Alain Delon. Bon, alors, c'est Mélodie en sous-sol, hein. Bijou en noir et blanc d'Henri Verneuil. Alors, au départ, la métro Goldwyn-Mayer, qui produit le film, ne veut pas de Delon. Comme celui-ci veut absolument tourner avec Gabin, il renonce à son cachet, mais demande en échange les droits du film au Japon. Une fois le film terminé, il fait donc sous-titrer le film en japonais et distribue au pays du soleil levant le film cartonne. Delon remporte sa mise... en gagnant in fine bien plus que le salaire de Gabin.
Bon, Guimette, avez-vous dans votre main un film plus récent et en couleur ?
Mais oui, cher maître du jeu. Oh, maître du jeu. J'ai le film le plus ensoleillé et sans doute le plus moderne qui a été tourné sur la Côte d'Azur. Une fille facile de Rebecca Zlotowski. Ah. L'histoire de Naïma, 16 ans, qui vit à Cannes et qui, pendant un été, réfléchit à son avenir aux côtés de sa cousine, une fille libre de corps et d'esprit.
Moi, l'amour, ça m'intéresse pas. On doit tout provoquer par nous-mêmes.
C'est la première fois que tu fais du bateau alors que t'habites à Cannes ?
Bah oui, il y a une première à tout.
Alors, ce film est un délicieux cocktail de sensualité et d'insolence avec des qualités évidentes, du genre Benoît Magimel. Des yachts, des références au cinéma d'Éric Rohmer et Zaya. En version ultra contemporaine de Bardot. Le moment où candidement elle explique qu'elle a lu Marguerite Duras à une petite tablée de gens riches et gentiment méprisants s'impose comme la revanche absolue des bimbos qui en fait maîtrisent le game.
Rappel de votre ciné-thérapie, Guimette Odissino.
Mélodie en sous-sol et une fille facile.
Et on retrouve votre chronique en podcast.
Et vive
sur
Cannes.
Enfin,
ça, c'est pas un film.
Radio France. Allez, dans un instant. On se demandera si le jeu est devenu une pratique culturelle comme les autres. Et nous vous révélerons les jeux qui ont été primés hier soir lors des As d'Or, les Palmes d'Or, la Palme d'Or du jeu. On se retrouve juste après avoir écouté George Benson, Give Me the Night. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, Guillemette et Laurence. Une chanson sortie en 1980, 10h25 sur Inter. George Benson interprété Give Me the Night.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse week-end en direct du Festival International des Jeux de Cannes. En partenariat avec France Inter, avec la commissaire générale Cynthia Rebera, qui est le sociologue du jeu, Vincent Berry, avec également mes deux joueuses préférées, Guillemette Odissino et Laurence de Villard. Enfin, préférées aujourd'hui, parce que ça change tous les jours.
Ah bah d'accord, c'est sympa ça.
Vincent Berry.
Ça, c'est de la déclaration d'amitié.
Exactement. Hein. Vincent Berry, quelle est la particularité du jeu dans l'éventail des loisirs, cinéma, théâtre, c'est quoi la particularité du jeu?
Bah, il a pas de, en fait, il a de moins en moins de singularité. C'est-à-dire qu'avant, il se singularisait par son caractère un peu en bas des hiérarchies culturelles. Et maintenant, en fait, c'est de moins en moins. C'est-à-dire que ça devient. Ce qui a évolué, par exemple, c'est on avait des enquêtes qui montraient que dans les années 80-90, par exemple, le jeu en famille. Si on prend le jeu en famille. En fait, la France, par rapport à l'Allemagne, est caractérisée par le fait qu'on joue aux enfants au Cluedo, au Monopoly, parce qu'il pleut et qu'il fallait les occuper. En fait, donc il y avait un truc un peu par défaut, et ça, c'est en train de remonter, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de loisirs et de pratiques culturelles, ils commencent à ressembler un peu aux autres.
Comment expliquez-vous la progression de la pratique des jeux depuis une trentaine d'années? Est-ce que la crise du Covid a constitué un accélérateur des pratiques?
Alors, il a commencé. En fait, on s'est souvent dit oui. Ça, donc pendant le Covid, il y a eu un effet effectivement d'accélération, de progression, etc. Mais en fait, on se rend compte maintenant, et c'est vrai du jeu, et c'est vrai des autres pratiques culturelles, que tout est à peu près revenu dans l'ordre. C'est-à-dire que le public de joueurs occasionnels ou passionnés est à peu près le même. Ce qui a changé le Covid, enfin, ce qui semble avoir changé, c'est que des gens qui jouaient un peu à la sortie du Covid jouent un peu plus. Mais sinon, le volume est à peu près le même. Ce qui a progressé, par contre, c'est le puzzle. Hein. Le puzzle a explosé et continue d'exploser.
Et c'est déringardisé.
Laurence de Villers.
Et le puzzle, c'est déringardisé. Maintenant, c'est bien de faire un puzzle.
Vous jouez au puzzle?
Non, c'est pas le blackjack, Ali.
C'est un
Robert. Et en complément, on va parler aussi un peu de chiffres. Il faut savoir que, alors je rejoins ce qu'a dit Vincent, donc la courbe au niveau du chiffre d'affaires est revenue à la normale, mais aujourd'hui, il faut quand même savoir que 70 boîtes de jeux se vendent chaque minute en France.
70 boîtes de jeux.
Ça fait 37 millions. Et là, je ne parle pas de puzzle, je ne parle pas de cartes à collectionner, je parle bien de jeux de société. Donc, oui, le jeu fonctionne très bien. Et puis même en complément de ce que disait Vincent, effectivement, il y a un réel travail. Alors, Monopoly, comme on en a parlé, mais aujourd'hui, il y a un réel travail de la part aussi des éditeurs. Qui et des illustrateurs bien sûr, mais de l'édition, qui font en sorte que le jeu plaise à l'intégralité de la famille. Donc c'est le temps est révolu où en fait on donnait un jeu afin d'avoir la paix, pardonnez-moi, et que les enfants jouent de leur côté. Aujourd'hui, les adultes prennent plaisir à se retrouver en famille avec des enfants autour d'un plateau de jeu.
Guillemette.
Mais je suis complètement d'accord. Et en plus aujourd'hui, je trouve plus qu'avant, le jeu est devenu un cadeau à faire pour les adultes. Avant, on offrait effectivement des jeux aux enfants à Noël et tout. Maintenant, quand on ne sait pas quel livre choisir, parce que c'est compliqué de connaître des goûts en littérature, etc., et qu'on offre à un adulte un jeu de société. En plus, les prix, il y a vraiment une gamme de prix très large. On peut acheter un jeu de société qui va durer pendant des années, dont les parties se renouvellent, qui va coûter 15 balles. Qui va faire jouer non seulement la personne à qui on l'offre, mais toute sa famille. Donc c'est vraiment, ça devient aussi un cadeau assez parfait.
Vincent Berry, pour expliquer l'augmentation de la pratique du jeu ces dernières décennies, dans une étude consacrée aux pratiques et cultures ludiques, vous expliquez, je vous cite, que l'effacement progressif des valeurs traditionnelles bourgeoises a laissé la place à des discours plus favorables au divertissement et au jeu.
Oui, absolument. C'est quelque chose que des sociologues vraiment avaient repéré. On a ça chez Dumasier, même chez Bourdieu, en fait. C'est-à-dire comment, à mesure que le temps de loisir a augmenté, parce que le jeu, cette société, il s'inscrit aussi dans une transformation des sociétés où on dégage du temps, en fait, et il faut le remplir, entre guillemets. Et donc, c'est l'émergence de la société des loisirs de Dumasier, etc. Et on commence à voir qu'effectivement... ce qui était perçu avant comme une perte de temps ou un temps voilà par défaut au travail, progressivement on va l'investir par des activités dont on va souligner l'intérêt. Donc au modèle un peu bourgeois du loisir comme une perte de temps va émerger ce qu'on appelle la moralité ou la fun morality, la moralité du divertissement, c'est-à-dire cette valorisation du temps libre et des activités qu'on met dans. Alors c'est vrai du jeu, mais on va défendre, je sais pas, les randonnées. Le tricot, etc. J'ai une collègue qui travaille sur le tricot, et tout d'un coup, le tricot a pris une valeur culturelle. Donc, le loisir est plus seulement une perte de temps, mais un espace à soi dans lequel on va développer des activités émancipatrices.
Laurence de Villers.
Mais je pense que c'est révélateur aussi, à la fois des manques et des interrogations de notre époque. On s'interroge beaucoup sur le sens du travail, mais on ne s'interroge pas sur le sens du jeu. Au contraire, il y a une promotion du jeu. Donc, c'est comme si le travail perdait en signification et le jeu... gagner en autorisation. Et puis je crois aussi que le jeu vient combler deux fragilités dans notre monde. C'est la fragilité du lien et se retrouver pour jouer, on peut pas faire autrement que être ensemble pour jouer. Et puis je crois aussi que nous avons une fragilité sur le vécu. Nous ne vivons pas vraiment ce que nous faisons, nous enchaînons les choses, on est en pilotage automatique. Ça paraît curieux hein, de pas vivre ce qu'on vit, mais ça nous arrive très souvent, sauf dans le jeu. On ne peut pas faire autrement dans le jeu que de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qui fait qu'on est pris dans le jeu. Et je crois que là, le divertissement vient combler des failles, des manques, et peut-être répondre à certaines interrogations.
Ce que vous dites là est absolument vrai. Il est vrai de ce
Merci,
que
Merci, Vincent.
Non, mais je veux dire, il est vrai des loisirs, en fait. C'est-à-dire...
pas tous.
Le jardinage, par exemple, la transformation du jardinage, on est passé d'une société où on jardinait pour compléter, en fait, l'alimentation, et puis tout d'un coup, faire son potager, c'est un moment aussi d'émancipation par rapport à un travail absurde, etc. Et on voit plein de loisirs se développer comme ça, et le jeu en fait partie. Ouais.
Cynthia Ribérac.
Et au niveau des loisirs culturels, en plus, le jeu permet d'être acteur. Et c'est aussi une différence. Et aujourd'hui, on a envie de pouvoir avoir un rôle, et c'est important, et on échange, et on vit quelque chose vraiment au-delà des sensations. C'est un peu grâce à nous, ou malheureusement, malgré nous. Mais en attendant, on a été acteur, et on se sent vivant.
Et donc, puis on peut même gagner.
Donc, Vincent Berry, on peut le dire à 10h34 sur France Inter, le jeu est devenu une pratique culturelle, comme les autres, au même titre que aller au cinéma, au théâtre,
Oui, oui, c'est vrai. Alors, institutionnellement, pas complètement.
Pas complètement.
C'est-à-dire que,
pas encore.
En fait, du point de vue des joueurs, oui. Du point de vue des institutions de l'industrie, c'est plus compliqué parce que, par exemple, le ministère de la Culture a sa grande enquête que tout le monde regarde tous les 10 ans, qui est pratique culturelle. Alors là, il commence à intégrer le jeu de société dans sa liste des... mais par exemple, il y a un débat au sein de l'industrie, au sein même des auteurs, c'est-à-dire... est-ce qu'on est une industrie culturelle ? Et pour l'instant, le jeu de société n'est pas reconnu comme une industrie culturelle, ce qui a été par exemple le jeu vidéo. Voilà. Donc il y a encore un débat là-dessus.
Allez, dans le public, j'aimerais écouter Vivien, 25 ans, qui est de Marseille, et Cécile, 54 ans, de Marseille. On m'a indiqué vos âges sur la feuille que notre programmateur Joseph Pascal m'a transmis. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, je suis ravi de vous avoir. Pourquoi jouez-vous ? Qu'est-ce que vous recherchez dans le jeu, Cécile ?
Je rajeunis de 20 ans, de 30 ans en fait quand je joue, parce que souvent je joue avec donc mon fils et tous ses potes qui ont à peu près qui ont 30 ans de moins que moi. Et donc il y a à la fois effectivement se prendre au jeu, se jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Tout ce qu'ont dit vos chroniqueurs jusqu'à présent, effectivement, je me suis retrouvée dedans. Et effectivement, en plus, je vous dis, moi, il y a ce fait que je joue généralement avec mes enfants, avec essentiellement donc mon fils aîné et tous ses potes. Et voilà, je me retrouve au même âge que...
Cécile, je vais vous flatter. J'ai cru que c'était un frère et une sœur. Vivien, pourquoi vous aimez jouer avec votre mère ?
Bah, du coup, forcément, pour créer du lien, en fait. C'est-à-dire que même de la manière qu'avec mes amis, c'est de créer du lien avec ma famille aussi, et aussi rassembler les gens autour d'un jeu, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère, on pourrait pas forcément parler des mêmes sujets avec mes amis, mais autour d'un jeu, bah, c'est pas grave, on se retrouve au sein d'un même truc.
Vous jouez à quoi ?
On peut jouer, enfin, pour le coup, on a joué dans la voiture à Shabadabada, par exemple, vous voyez, donc un jeu autour du champ. On joue aussi aux aventuriers du rail ou enfin, à ce genre de jeux qui sont pas trop compliqués dans les mécaniques, mais qui peuvent vraiment rassembler facilement.
Alors, vous pouvez le révéler à la France entière, Vivien. Est-ce que votre mère est une mauvaise ou une bonne joueuse ?
Bonne joueuse, c'est ça qui est très drôle.
Bonne ou mauvaise perdante ?
Bonne perdante, c'est ça aussi qui est agréable. C'est encore plus marrant dans le sens où on va se taquiner en mode t'as triché, alors qu'on sait très bien qu'aucun n'a volontairement triché. Quoi.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça c'est venu avec mes enfants. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais une super mauvaise joueuse. Si ma mère était là, elle vous raconterait les crises de nerfs que j'ai faite en pleurant parce que j'avais perdu au jeu. Et je crois que c'est aussi parce que je suis mère maintenant et que j'ai une certaine empathie envers mes enfants, qui fait que je suis heureuse qu'ils gagnent plus que le fait d'être malheureuse de perdre.
Et vous savez quoi, Vivien et Cécile, j'ai très envie d'aller jouer avec vous. Hein. Guimette aussi, je sens.
Ah oui, j'adore. Et avec puis quand même, vous effectivement, vous donnez une vision positif du jeu en famille, parce que quand même il faut être honnête, de
ça
temps en
mal.
Temps quand on a un mauvais joueur dans la famille, je ne cite personne dans la mienne, ça peut vraiment être casse-pied.
Ce serait pas votre fils par hasard ?
Pardon, j'entends pas, mon micro marche.
Merci beaucoup Vivien et Cécile d'être intervenus en direct du Festival International des Jeux de Cannes. Vincent Berry, avant d'écouter des éditeurs, moi j'ai envie d'écouter les éditeurs innovants qui sont avec nous et qui vont intervenir. Dans la grande famille des jeux de société, quels sont les jeux auxquels on joue le plus, c'est quoi ? C'est les jeux de cartes et de dés, les jeux de lettres genre mots fléchés, les jeux de mémoire et d'observation type Uno, les jeux de logique, de déduction, de stratégie comme les échecs ou les dames, les jeux de culture générale ou les quiz comme le Trivial Pursuit, ou encore les jeux de rapidité comme le Time's Up. On joue à quoi principalement dans notre pays ?
Alors ça dépend à l'échelle où on regarde, c'est-à-dire les pratiques entre adultes, etc. Mais en fait, ce qu'il y a de commun, c'est quand même Cynthia a montré la richesse de ce qui est produit aujourd'hui. Effectivement, on voit des jeux arriver dans, je sais pas, les Skyjoe par exemple qui est apparu récemment, donc on le trouve dans les enquêtes. Mais globalement, les jeux traditionnels se portent très bien. Et la belote, le tarot, la bataille, le rami, on avait fait une enquête, on s'est dit, mais tiens, mais pourquoi la belote est aussi puissante ? Et on s'est dit, bon, un sociologue un peu... voilà, un peu pénible, parce que la société française vieillit avec des espèces de stéréotypes. En fait, on regardait que la belote était drainée par les étudiants. Et donc, la partie de cartes, etc. Donc, les parties de cartes, à l'échelle de la population, les jeux traditionnels, le président, qu'on appelle aussi le trou du cul.
On appelle ça que le trou du cul, le président.
Les jeux de cartes traditionnels se portent très bien, et après, il y a plein d'autres jeux, bien sûr, qui se portent très bien.
Cynthia Ruberac.
Oui, les jeux de cartes traditionnels et les jeux de cartes tout court. Aujourd'hui, on arrive à voir que les jeux de cartes fonctionnent à merveille. Il y a aussi beaucoup de jeux à deux. Et là, je vous laisserai, Ali, me passer la parole quand vous le souhaitez sur le label Asdor,
mais
qui vient récompenser justement également beaucoup de jeux à deux. deux. Donc,
Alors c'est vrai que depuis le début des années 2000, on assiste à une multiplication de l'offre. Vous trouverez forcément ici au festival des jeux qui vous plaisent, des jeux de sociétés très diversifiées avec des éditeurs de plus en plus nombreux. Alors on retrouve évidemment les mastodontes comme Hasbro, Ravensburger ou Asmodée, et une multitude de petits éditeurs, hein, Cynthia Robérac.
Oui, des éditeurs émergents, effectivement, il y en a de plus en plus, donc la richesse est de plus en plus fournie. Il y a énormément d'auteurs, et au niveau de chiffres qui sont toujours très agréables à connaître, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 700 nouveaux jeux qui sortent sur le marché français chaque année, et donc de ce fait, on imagine bien qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, donc des gros mastodontes, et puis également des éditeurs de taille moyenne et des éditeurs émergents.
Cynthia Robérac, hier soir, le Festival international des jeux a donc décerné les As d'or. Pouvez-vous nous révéler le palmarès ? On le rappelle, hein, ce label As d'or sur une boîte de jeux, c'est très 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 important pour les éditeurs. Et puis aussi, pour les joueurs, un
gage d'excellence.
Un gage d'excellence, hein.
Tout à fait, merci. Eh bien, dans la catégorie As d'or, le grand gagnant est Toy Battle. C'est un jeu donc A2 qui est édité par Repos Productions.
C'est quoi Toy Battle ?
Toy Battle, eh bien, c'est une guerre de jouets, donc c'est un jeu de plateau qui se joue à deux. Et je l'ai joué, c'est très très sympa, je le recommande évidemment.
Toy Battle.
Ensuite, dans la catégorie enfant, L'île des Monkeys, donc c'est un jeu de cartes également, qui se joue à deux. Et qui se joue à partir de 4 ans. Donc cela montre encore une fois qu'il y a un réel travail qui est fait afin que chacun d'entre nous, et même les plus petits, puissent jouer à des jeux de société.
Redonnez le titre du jeu.
L'île des Monkeys. Et c'est un jeu qui est édité par Le Scorpion Masqué. Et l'auteur est Florian Sirex. Au niveau de la catégorie initiée, le grand gagnant est Zénith. Donc c'est un jeu A2 ou A4. Où l'objectif est de prendre le contrôle du système solaire, et c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, édité par Playpunk. Et dans la catégorie expert, les joueurs un peu plus velus, nous avons Sivolution, qui a remporté donc hier le label As d'or expert. C'est un jeu de Stéphane Feld et édité par Grail Games et Deep Rick Games. Voilà.
Guillemette.
Alors ça, je trouve que c'est une très très bonne idée que ce soit des jeux pour deux qui soient primés. Enfin, ce qui montre aussi qu'il y a de plus en plus de jeux pour deux. Parce que ça, c'est le petit problème du jeu de société. C'est que si vous appelez... Il faut une société. Si vous avez plein 12 cousins, votre belle-mère ou votre maman qui veut bien jouer avec vous, souvent, vous vous retrouvez un petit peu sec. Qu'on puisse jouer à deux sans convoquer le banc et l'arrière-ban, c'est vraiment une très bonne idée, ça.
Voire à une seule personne, même.
J'aimerais entendre des créateurs de jeux présents au festival. Venez nous raconter vos inventions, vos créations. Tiens, Jonathan Algaz, vous êtes le fondateur et le PDG de Topi Games. Et vous aviez envie de nous parler de deux jeux. Expliquez-nous d'abord Topi Games. Alors, en quelques mots, Jonathan Algaz.
Oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis le seul auteur à travailler en direct avec J.K. Rowling pour mes jeux Harry Potter et Shiro Oda pour mes jeux One Piece. Et Akira Toriyama, qui hélas nous a effectivement quittés il n'y a pas longtemps sur mes jeux Dragon Ball. Aujourd'hui, donc, dans mes nouveautés, j'ai sorti Les Entrepreneurs.
Alors ça me donne envie. Les Entrepreneurs, expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
En fait, voilà, on a 10 ans, soit 10 tours pour gagner 1 million d'euros. On investit en actions, en objets, en lançant des business et en immobilier. L'objectif est d'apprendre à investir pour réussir sa vie. Vaut mieux se planter dans le jeu que dans la vraie vie. D'autre part, j'ai également Le Lanceur, qui est un jeu où on peut même jouer tout seul, où en réalité c'est un tournoi à faire chez soi, où on va affronter les enfants contre les adultes avec 6 épreuves. Donc on a le cornhole, le chamboule-tout et effectivement les principaux jeux d'adresse comme le lancer de fléchettes ou de balles. Et enfin, j'ai également créé donc Les Explorateurs, où on part chercher le trésor de la buse. C'est à la fois un escape game à faire chez soi et également donc un jeu de piste dès 4 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 100 coffres en magasin pour une valeur de 5000 euros que les Français pourront gagner, que je fais en fin d'année, où on va chercher l'anneau de Sauron.
Merci beaucoup, Jonathan Algaz. J'aimerais qu'on accueille Marc Buomo. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour, Ali.
Vous allez bien?
Oui, alors je vais bien, mais je vous ai entendu dire que vous n'aimiez pas les jeux de stratégie.
Vous allez me convertir.
Oui, j'espère. Alors, je vous attends sur le stand, d'ailleurs.
Parlez-nous de votre jeu qui s'appelle
Askaku.
Askaku. C'est quoi Askaku? C'est un jeu abstrait.
C'est un jeu abstrait,
un peu.
Oui.
expliquez-nous.
Oui, un jeu abstrait, c'est un jeu où il n'y a pas de thème, il n'y a pas de corsaire, il n'y a pas de bons et de méchants, il n'y a pas de gens qui en tuent d'autres, etc. On n'a que son cerveau, un plateau, des pions, et voilà.
C'est un peu comme le jeu de Go.
C'est un peu comme le jeu de Go. Le jeu de Go est un jeu abstrait. J'aimerais bien avoir créé un jeu qui ressemble au jeu de Go.
C'est pour bien expliquer ce qu'est un jeu abstrait.
C'est un jeu abstrait, un jeu qui a pas de thème, voilà.
Alors, donnez-nous envie de jouer à Skaku, alors.
Non, mais j'ai envie de défendre le jeu abstrait parce que je cherche un éditeur, déjà, je le dis à votre antenne. Parce que pour l'instant, je m'auto-édite, mais j'ai envie de poursuivre l'aventure. Et à chaque fois, la réaction est un peu frileuse. Du genre, oui, mais les jeux abstraits, les gens n'aiment pas trop réfléchir. Alors, on parlait de pratiques culturelles. Oui, le cinéma, la littérature, mais finalement on va au cinéma aussi pour réfléchir, on lit pour réfléchir. Et pourquoi est-ce qu'au jeu, on n'a pas envie de se creuser un petit peu les méninges, je ne sais pas. Donc c'est une toute petite niche, le jeu abstrait, moi je me suis glissé.
Et vous êtes basé dans la Drôme, c'est ça ?
Je suis basé dans la Drôme, oui.
À Skaku, et on peut vous retrouver Skaku, sur le site internet.
On me retrouve sur le stand 0606 et le site, le site internet, c'est pour le Festival de Cannes, pourquoi pas.
Et le site ?
Le site, c'est askaku.com.
Merci beaucoup, Marc Boumeau. Et j'aimerais qu'on accueille Grégory Grard. Grégory Grard, bienvenue. Alors vous venez nous présenter le jeu Zénith, c'est ça ?
C'est ça.
Expliquez-nous.
Qui a remporté l'Asdor initié hier soir.
L'Asdor. Alors, bravo, on peut l'applaudir. Alors, donnez-moi envie, mon cher Grégory Grard, de jouer à Zénith. Est-ce que c'est un jeu de stratégie ou pas ?
Oui, Zénith, c'est un jeu de stratégie.
Vous allez me convaincre.
C'est un jeu pour deux joueurs ou joueuses, mais ça se joue également à quatre. Donc, c'est un jeu de tir à la corde. Avec beaucoup de cartes différentes, beaucoup de stratégies différentes et de la tension jusqu'au dernier moment de la partie.
Bon, ça me donne envie, Guillemette, Laurence.
J'ai une question technique. Laurence. Est-ce que les échecs sont considérés comme des jeux abstraits alors qu'il y a le fou, la reine
tout à fait,
C'est un jeu abstrait
oui.
Bon, voilà, c'est juste une question qui me taraudait.
Merci pour votre question.
Non, mais moi, je veux jouer à Zénith. Hein.
Voilà, mais merci beaucoup.
Ouais, grave.
Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs de jeux qui aimeraient s'exprimer ? Tiens, monsieur, bienvenue, vous êtes... c'est Aurélien ?
Non, c'est
Frédéric Balner, pardon. Frédéric Balner, vous êtes le PDG de Topla. Frédéric Balner, alors oui, c'est un jeu très intéressant que vous avez développé avec la thérapeute Emmanuelle Piquet. C'est un jeu anti-harcèlement et ça s'appelle No Way Bully. Bully, c'est bully en français, ça veut dire harcèlement.
Stop au harcèlement scolaire.
Stop au harcèlement scolaire. Racontez-nous ce jeu, c'est assez original.
Eh bien, écoutez, c'est une aventure de 2 ans déjà. Nous avons eu l'opportunité de bénéficier de l'expertise, de l'expérience d'Emmanuel Piquet, comme vous venez de le dire, qui a son réseau chagrin scolaire. On a travaillé avec ses équipes. Et effectivement, l'ambition première était de pouvoir mettre au service de ce drame social le jeu, parce que le jeu, et on le mésestime toujours, est un outil extrêmement puissant. Et donc, c'était le pari. On l'a développé pendant 2 ans avec donc les équipes et Emmanuel Piquet elle-même. Et ça a donné ce jeu qui vient de sortir, qui a 2 mois, et qui est une vraie réponse à tous les types de harcèlement. Cyberharcèlement, harcèlement physique, harcèlement psychique, harcèlement social. Hélas, il y a tous ces types de harcèlement de plus en plus tôt dans les cours primaires, bien sûr, essentiellement aussi dans les collèges et dans les lycées. Et donc ce jeu est extrêmement intuitif. Il prend 2 secondes, et je vous mets au pari, au défi. En 2 secondes, on sait y jouer et on découvre un outil extrêmement puissant qui peut aller dans une complexité très forte.
Frédéric Balner, PDG de Topla, redonnez le titre de votre jeu.
Alors, No Way Bully, stop au harcèlement scolaire, et à trouver dans tous les bons magasins de jeux ou grands spécialistes.
Et vous retrouverez toutes les références des jeux cités par les éditeurs de jeux qui sont venus au micro sur le site et l'appli Radio France. Guillemette.
Je peux juste dire que le stand de Radio France, là, il est juste à côté d'un stand Diddle.
Alors, allez-y.
Ah ouais, non, mais attendez, Diddle is back.
C'est quoi ça, Diddle ? Parce que vous étiez toutes intéressées
oui.
par ce stand.
Retour de Diddle, c'est important. Alors, c'est pas vraiment dans le domaine du jeu, quoique, parce que Diddle, c'est une petite souris qui est l'héroïne de toute une collection de papeterie, sauf que dans les cours d'école il y a 20 ans, et ça va revenir à mon avis grave aujourd'hui, on échangeait les feuilles des carnets Diddle, qui sentent bon en plus, comme si c'était des cartes de jeu. Et ça devient une espèce d'univers en fait ludique autour de cette petite souris et de cette marque allemande
qui est vraiment délicieuse. Moi, j'ai l'impression que ma fille a encore 8 ans. Ça me fait un petit coup de nostalgie.
Et ça s'appelle donc...
C'est Diddle. Voilà.
Vincent Berry, je reviens à vous. Est-ce qu'il existe des écarts dans les pratiques entre milieux sociaux? Joue-t-on plus aux cartes ou à des jeux de plateau selon le milieu social? Vous écrivez par exemple dans votre mémoire Le Sens du Jeu que les classes moyennes et supérieures sont des omnivores en matière de jeu. C'est très intéressant comme concept.
Oui, alors c'est un concept qui vient de la sociologie de la culture sur l'omnivorisme culturel. C'est par rapport aux travaux de Bourdieu, par exemple, où avant on pensait qu'il y avait une correspondance parfaite entre ce que vous êtes et puis, enfin, votre position sociale et puis ce que vous consommez. En fait, on s'est rendu compte que les différences portent aujourd'hui sur votre capacité à consommer plein de choses. Et ce qu'on va appeler l'omnivorisme culturel. Donc voilà, je vais regarder Arte, TF1, etc. Et puis, dans les milieux populaires, on va avoir moins une gamme plus réduite et ça marche pour le jeu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand nous on fait des enquêtes du type, on fait des tests de culture ludique. Donc on montre le Monopoly, les de Catan, etc. Puis on demande aux gens est-ce que vous connaissez pour y avoir joué, et on fait des tests, des scores de culture ludique. On se rend compte qu'effectivement les classes moyennes et supérieures ont une connaissance de la diversité du monde du jeu et de pratiques aussi, et que dans les milieux populaires on va avoir plutôt une vision autour des grands classiques, des petits chevaux, etc. Et ça se traduit aussi dans les pratiques, c'est-à-dire que le jeu de société, il est devenu dans les classes moyennes et supérieures une marque de bonne parentalité. C'est-à-dire être un bon parent aujourd'hui, c'est de passer du temps à jouer avec ses enfants. Ce qui ne veut pas dire que les classes populaires ne sont pas des bons parents, ça veut dire qu'ils vont investir la parentalité ailleurs que dans le jeu. Et juste pour dire, en fait, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Ce qui a changé, par contre, c'est qu'avant, cette idée d'utiliser le jeu avec ses enfants pour apprendre les couleurs. On voit qu'il y a des éditeurs qui sont positionnés là-dessus en disant ouais, ils vont apprendre à compter. Et donc on l'avait observé dès les années 60, c'est-à-dire on utilise le jeu de société pour préparer l'enfant à l'école, etc. Et en fait, aujourd'hui, les parents défendent le jeu de société avec leur enfant, pas seulement au regard de l'école, mais au regard de la qualité du temps qui est passé et du temps hors écran.
Cynthia Ribérac.
Oui, et en complément, il y a aussi des pratiques de consommation, c'est-à-dire que des grands classiques comme le Monopoly, le Cluedo, en fait, quand vous faites vos courses en supermarché, eh bien, ils sont là, ils sont accessibles. Ouais. Contrairement aux autres jeux où on va commencer à pousser, comme une librairie, eh bien, on va avoir la petite librairie de quartier, eh bien, là, on va avoir la boutique spécialisée, eh bien, en fait, la distribution joue énormément aussi dans le fait de pouvoir avoir accès rapidement ou pas à un jeu.
Est-ce que j'ai le droit de conseiller deux jeux qui m'ont régalé cet été?
On n'a pas le temps, parce qu'on va écouter une spectatrice, enfin une participante au festival. Mais allez-y en un mot.
Le cracklist.
C'est quoi?
Cracklist, mais c'est génial. Vous mélangez le petit bac et le Uno. Ah. C'est d'une simplicité enfantine. Vous allez rire. C'est pour toute la famille. C'est extra.
Redonnez le titre.
Cracklist.
Et nous accueillons Aurore. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bienvenue. Alors vous êtes venue en couple et entre amis, c'est
oui,
ça?
Tout
et vous
à
arrivez
fait.
Du golf de Saint-Tropez.
C'est ça.
Pourquoi aimez-vous jouer? Pourquoi vous jouez? Et avec qui?
Alors on joue avec la bande d'amis qui sont venus aujourd'hui, mais qui m'ont gentiment envoyé vous voir. On est souvent entre 6 ou 8 amis joueurs.
C'est pas mal.
Nous, avec mon chéri, nous avons une collection d'environ 250 jeux.
250 jeux à la maison?
Ah oui. Et avec les copains, si on rajoute les leurs, je pense qu'on atteint facilement les 300-350.
Donc un jeu par jour.
Ouais, voilà, je pense qu'on peut faire un jeu par jour dans l'année.
Qu'est-ce que vous recherchez dans le jeu, justement? Racontez-nous un petit peu le plaisir que vous avez à jouer.
On recherche, ça va dépendre des moments. Des fois, on va simplement chercher de la rigolade. Parfois, on va vraiment chercher du challenge. On va chercher de la stratégie aussi, parfois. Et de toute façon, voilà, généralement, ça finit toujours. On commence en journée, ça finit tard le soir, puisqu'on va enchaîner les parties. Et on a initié nos enfants, donc on a tous des enfants dans nos cercles d'amis, et on va de 3 ans à 8 ans. Et maintenant, ils jouent à des jeux d'adultes, comme ils disent. Ouais. Et souvent, ils gagnent.
Vous allez pouvoir leur léguer les 250 jeux.
Tout à fait, ça va faire partie de l'héritage.
Merci beaucoup, Aurore, d'être intervenue.
Merci.
Allez, dans un instant, ce sera la punchline philo de la philosophe Laurence de Villers. On se retrouve juste après avoir écouté Vanessa Paradis, Les épines du cœur. 10h53.
Toi celui qui met mon cœur au galop.
Vanessa Paradis, les épines du cœur.
Philosophie, France Inter, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
La punchline philo de Laurence de Villers.
Cher Ali, la tentation était trop grande, je vais vous parler de Blaise Pascal. En quoi me direz-vous, je le sens, que ce philosophe du XVIIe siècle aurait quoi que ce soit à nous dire aujourd'hui à Cannes, au Festival des Jeux? Parce que Pascal s'est beaucoup intéressé aux jeux de hasard. Il a même proposé de parier plutôt que de parler de Dieu. S'il existe, on gagne tout. S'il n'existe pas, on ne perd rien. Mais je ne vais pas vous parler du pari de Pascal, je vais vous proposer d'explorer ce qu'il nomme le divertissement, un mot qui est revenu à plusieurs reprises ce matin, et plus précisément ce qu'il nomme le divertissement des jeux. Voici la citation, c'est le fragment 168, des pensées. On ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Et tout le malheur des hommes, on le sait, vient d'une seule chose, l'incapacité à demeurer en repos chez soi. Nous avons besoin de nous agiter, de nous affairer, de nous divertir, que ce divertissement prenne la forme de bavardage, de commérage, d'émissions de philosophie, de textes, de voyages en mer ou, bien sûr, de jeux. Nous qui passons notre temps à faire mille choses à la fois, nous qui frôlons perpétuellement l'épuisement, nous pouvons effectivement nous interroger sur cette frénésie de suractivité. Le divertissement chez Pascal n'a pas le sens de vagues distractions, plus ou moins accaparantes. Non, le divertissement, dit-il, est une occupation violente et impétueuse, une occupation qui a le pouvoir de nous absorber totalement. Si vous êtes un acharné du Cluedo, oui, j'assume totalement, mon exemple c'est le Cluedo. Vous savez que le jeu représente l'exemple parfait d'une activité si prenante qu'elle peut nous absorber complètement. Plus rien d'autre n'existe que la partie en cours. Et c'est précisément cela que nous recherchons avec le jeu. On joue pour tout oublier. Mais pour oublier quoi exactement? C'est là où plusieurs interprétations s'affrontent. Est-ce qu'on se divertit chez Pascal pour oublier qu'un jour, on va mourir? Je ne le crois pas. Si on se divertit, c'est parce que on ne supporte pas non pas l'idée de la mort, mais la vie tout court. Je vous l'accorde, c'est plus sombre, plus profond, plus viscéral, plus pascalien. Prenons le temps d'y réfléchir un peu. Si le simple fait d'être en vie nous remplissait de joie, on n'aurait pas besoin de s'inventer tous ces divertissements, tous ces jeux. On serait simplement tranquille, serein, chez soi. On se réjouirait de la vie comme cela, doucement, calmement, sans recourir à des excitations de toutes sortes qui nous vident la tête et nous font penser à rien. Et c'est bien cela que nous voulons dans les jeux, qu'ils nous détournent, qu'ils nous divertissent de penser à notre vie et à ses tracas. Le jeu est donc quelque chose de très sérieux. C'est la solution que nous avons trouvée pour supporter l'existence, pour supporter que sans cesse, nous ayons à affronter des obstacles qui nous séparent encore un peu du bonheur. Ne dit-on pas « quand j'aurai obtenu cela, je serai heureux, quand j'aurai fini cela, je serai bien ». Le bonheur est donc toujours pour demain, ou vendredi soir, ou samedi, ou cet été. Ainsi, et c'est la conclusion de Blaise Pascal, ainsi nous ne vivons jamais... Mais nous espérons de vivre, nous préparons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Alors, je vais mettre un peu de gaieté. J'ose pourtant rétorquer au grand Pascal qu'une partie de Blackjack, ou même de Cluedo, c'est quand même passionnant. Et que serions-nous, cher Ali, sans nos passions?
La punchline philo de Laurence de Villers. Merci aux amis du vendredi. Laurence et Guimette, merci beaucoup Cynthia Rébérac. Le Festival du Jeu, c'est jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir accueillis ici au Palais des Festivals. Merci Vincent Berry. On attend le livre consacré au jeu. Merci Cyrine Benyounès, Anna Massardi, Joseph Ascal pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noélia Fiol. Merci à Maria Pasquet pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. Merci beaucoup aux équipes techniques d'ici Azur, Rémi Martinez, l'excellent Rémi Martinez à la console, Jean Acosséberry et Alain Fauché, le grand ordonnateur des événements. Et merci à Régis Courvoisé du Palais des Festivals. Lundi dans Grand Main Vous Fasse, on s'intéresse aux expériences de mort imminente. N'hésitez pas à témoigner et c'est scientifique au 01 45 24 7000.